Il y a encore des bombardements à Baghouz, 3 jours après la chute annoncée du dernier réduit de l'État islamique en Syrie. L'envoyé spécial de France Inter, Omar Waman, nous raconte, il est à Baghouz, des bombardements et très certainement des djihadistes terrés dans les tunnels. Les Roms tentent d'enlever des enfants. Cette rumeur a provoqué des expéditions punitives dans au moins 5 communes de Seine-Saint-Denis. Les démentis de la préfecture n'y ont rien fait pour y mettre fin. Une 20aine d'arrestations ont eu lieu la nuit dernière. Le rapport qui suscite la controverse, plus de 300 000 fonctionnaires d'État travaillent moins de 35 heures par semaine. Aucune justification pour 200 000 d'entre eux. Détail avec Manuel Ruffez. Demain, le projet de réforme de la fonction publique. Les syndicats font un lien entre les deux informations. L'invité du journal de 13h, le président de la Société française d'alcoolologie. Un quart des Français boivent trop, selon un rapport publié aujourd'hui. Alors, faut-il appliquer à l'alcool le type de mesure qui a marché avec le tabac? La chronique santé du mardi, enfin une plateforme d'information pour les parents d'enfants autistes. La politique. Bonjour Karine Descartes.
Bonjour.
Les principaux noms de la liste macronienne aux européennes seront dévoilés cet après-midi. L'attelage, Karine, promet d'être hétéroclite.
Oui, un agriculteur, une navigatrice, un journaliste. L'attelage, effectivement, peut paraître pour l'instant un peu baroque. Il y a très peu d'eurodéputés sortants. Comme toujours, du remerciement politique, savant dosage entre renouvellement et vieille pratique.
En politique internationale, les déclarations du matin, la mise en garde d'Emmanuel Macron à la Chine, respecter l'unité européenne, réponse de Xi Jinping. La méfiance ne doit pas l'emporter. Et puis les mots dans ce tweet de Donald Trump, les médias sont l'ennemi du peuple. À Strasbourg, la directive sur le droit d'auteur adoptée par les députés européens. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France ce matin?
Du soleil et de belles éclaircies sur la moitié sud, le sud de la Loire, mais aussi de la Bretagne et la Normandie jusqu'au Jura. Plus au nord, l'après-midi sera plus variable avec un ciel plutôt nuageux au nord de la Seine. Temps plus agité en Corse où les averses vont rester nombreuses cet après-midi. Les températures seront elles comprises entre 11 et 20 degrés du nord au sud. À noter aussi beaucoup de vent sur le quart sud-est, notamment autour de la Corse.
Sébastien, si vous êtes sage, nous vous raconterons l'histoire extraordinaire du jour. Ce tableau de Picasso volé sur un yacht il y a 20 ans et retrouvé grâce à l'Indiana Jones du monde de l'art. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Non, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Direction Baghouz, en Syrie, 2 jours après la chute annoncée de ce dernier réduit de l'État islamique, l'envoyé spécial de France Inter, Omar Waman, a pu entrer dans Baghouz, ce bout de terre au fond du désert, près de l'Irak, sur les bords de l'Euphrate. Pendant de longues semaines, combattants kurdes et arabes soutenus par les Occidentaux se sont battus contre les djihadistes, quelques 2000 morts en tout. Samedi dernier, l'annonce de la chute du califat. Dimanche, ce qui était présenté comme la reddition des derniers combattants. Bâton barbu. Omar Waman, à quoi ressemble Baghouz ce matin? Il y a encore, Omar, des bombardements.
Oui, effectivement, le dernier réduit du groupe État islamique. Baghouz est une ville en ruine. C'est un véritable paysage de désolation qui s'offre à nous. Les maisons sont écrasées, les voitures éventrées. Il y a évidemment aucun civil dans cette ville. Et puis il y a les abords du fleuve, l'Euphrate. Vous savez que nous sommes aux confins de la Syrie, à l'extrême est. Dans cette zone-là, à savoir dans ce dernier réduit de Daesh, il y a ces campements, des campements de fortune dans lesquels ont vécu des milliers de civils, femmes, enfants et combattants djihadistes. C'est là que s'est déroulée la dernière bataille. Nous sommes entrés dans ce campement et nous avons pu assister à des bombardements. Il y a toujours des bombardements. La zone est survolée par des avions de la coalition qui cherchent des cibles. Il y a des tunnels. On nous dit que dans ces tunnels se cacheraient les derniers irréductibles de Daesh qui refusent de se rendre, ce qui explique ces bombardements auxquels nous avons assisté, ces avions qui ont longtemps tourné dans le ciel et qui ont frappé. Nous avons vu à quelques centaines de mètres de nous une colonne, à plusieurs reprises, une colonne de fumée noire monter vers le ciel.
Cela veut dire, Omar Waman, que contrairement à ce qui avait été annoncé, il reste des combattants à Baghouz?
Alors, dans ces tunnels, car la zone est truffée de galeries souterraines, c'est dans ces tunnels que se sont cachés les derniers combattants de Daesh. Certains se sont rendus dimanche, mais depuis, les bombardements se poursuivent. On a assisté à ces bombardements. On nous dit, alors sous couvert d'anonymat, ici et là, des combattants des forces démocratiques syriennes nous disent qu'il y a des cellules dormantes dans cette zone. Il y a des combattants qui ont refusé de se rendre et qui se cacheraient dans ces tunnels.
Omar Waman, envoyé spécial de France Inter à Baghouz en Syrie. Récit enregistré dans la matinée par Olivier Poujade pour France Inter. Voilà une histoire d'époque. Une 20aine d'interpellations ont eu lieu cette nuit dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. Des interpellations pour mettre fin à des expéditions punitives qui se multipliaient sur la seule foi d'une rumeur, Laetitia Eveline.
Une rumeur, une fake news qui circule sur les réseaux sociaux. Cet infox assure que les Roms enlèvent des enfants. Au total, donc cette nuit, une vingtaine de personnes ont été interpellées pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Déjà à Clichy-sous-Bois, plusieurs individus se sont introduits dans un pavillon squatté par des Roms avec des bâtons, différents projectiles. S'en est suivie une course-poursuite. Les Roms ont fini par être escortés par la police jusqu'à la porte de la chapelle avant de regagner leur squat. À Bobigny également, cette fois c'est une cinquantaine d'individus armés de couteaux et de battes de baseball qui ont menacé des Roms installés en bordure de la Nationale 3. Scénario identique à Aubervilliers, Bondy et Noisy-le-Sec. À chaque fois, la préfecture de police a reçu de très nombreux appels pour signaler la présence d'individus avec des bâtons à proximité de campements de Roms. Là-bas, la brigade anti-criminalité a donc décidé de déployer des effectifs pour sécuriser les campements en Seine-Saint-Denis.
À cette information, nos confrères de l'agence France Presse, l'humoriste Yacine Bellatar en garde à vue ce matin à Paris. Il est visé par plusieurs plaintes pour menaces de violence ou menaces de mort, pour harcèlement également. Il était convoqué ce matin au commissariat du 5e arrondissement de Paris, sur plainte du comédien Bruno Gassiot, l'une des figures des guignols de l'info il y a quelques années. À présent, voici 8 mots qui vont forcément susciter la controverse. Les voici, ces 8 mots. Rapport sur le temps de travail des fonctionnaires. Bonjour Manuel Ruffet.
Bonjour.
Ce rapport émane de l'Inspection Générale des Finances. Il est à charge pour les fonctionnaires. Chiffre clé, plus de 300 000 fonctionnaires d'État travaillent moins de 35 heures par semaine.
Et pire que ça, sur ces 300 000, 190 000, les deux tiers, sans que rien ne le justifie, affirme l'Inspection Générale des Finances. Alors on reprend tout. Sur un effectif audité d'un peu plus d'un million d'agents publics d'État, un tiers travaille moins que le seuil légal de 1607 heures par an. Ça s'explique pour 120 000 d'entre eux par des conditions de travail particulières. Pour les 190 000 autres, donc, rien ne semble justifié. Comment on en arrive là? Eh ben, selon l'IGF, ces agents bénéficient des mêmes régimes que leurs proches collègues qui, eux, sont soumis à des contraintes particulières. Il y a, toujours selon l'IGF, toute une série de dispositifs historiques qui n'ont plus lieu d'être. Des journées de congés supplémentaires pour ancienneté, les jours de fractionnement ou encore les jours ministres, comme il existe des jours du maire. Enfin bref, la conclusion surtout de l'IGF, c'est qu'en alignant ces 190 000 fonctionnaires d'État sur les 35 heures, on pourrait réduire les effectifs de 30 000 postes. Et ça, c'est du pas béni pour le gouvernement.
300 000 fonctionnaires concernés par cette étude. Rappelons les chiffres, hein, 5,5 millions de fonctionnaires en France, 2,5 millions travaillent pour l'État, des magistrats, des profs, des policiers entre autres. Alors ce rapport, il sort dans la presse la veille d'un conseil des ministres important. Demain doit être présentée la réforme de la fonction publique. Et rapplons que la promesse d'Emmanuel Macron, c'est de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires au fil du quinquennat, près de la moitié dans la fonction publique d'État. Écoutez, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics.
D'abord, on ne croit pas au hasard, puisque demain doit être présenté en Conseil des ministres le projet de loi sur la fonction publique, qui vise notamment à modifier de manière assez profonde l'organisation de la fonction publique et qui de fait s'attaque de manière forte à un certain nombre de droits et garanties collectifs. Donc voilà, on pense nous que cette opération de fuite aujourd'hui sur le temps de travail des fonctionnaires est une entreprise qui vise en fait à continuer de préparer les esprits à une réforme de la fonction publique extrêmement profonde et dangereuse de notre point de vue. Par ailleurs, il faut quand même souligner, ça c'est l'INSEE qui le dit dans un récent rapport, que le temps de travail dans la fonction publique, il a eu tendance à augmenter ces dernières années. Donc voilà, nous maintenons qu'il n'y a pas de problème global de temps de travail dans la fonction publique et qu'en fait le gouvernement est d'abord et avant tout en train de chercher des marges d'économie et donc il est en train de chercher à les justifier et que l'objectif derrière tout ça c'est bien pour pouvoir supprimer des postes et bien d'allonger le temps de travail des agents qui sont en place.
Et cette réforme c'est donc demain en Conseil des ministres, nous suivrons cela évidemment sur France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvy.
Et nous sommes à présent avec l'invité du journal de 13h, bonjour Mickaël Nassila.
Bonjour.
Président de la Société française d'alcoolologie, parlons avec vous de cette étude de Santé publique France selon laquelle près d'un quart des Français boivent trop d'alcool. Est-ce qu'on peut donner quelques détails sur cette étude?
Alors cette étude vise à informer le grand public et les professionnels de santé sur nos nouveaux repères de consommation d'alcool en France qui sont de ne pas consommer plus de 10 verres par semaine, 2 verres par jour et de ne pas consommer tous les jours.
Et donc c'est ces repères-là qu'un quart des Français dépassent.
Voilà, donc ça encourage à faire des campagnes de sensibilisation, d'information sur pourquoi ces nouveaux seuils, qu'est-ce qu'on risque même à de faibles consommations d'alcool, à la fois vers le grand public et à la fois aussi vers les professionnels de santé.
Alors allons-y justement sur le qu'est-ce qu'on risque. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent « Oh, deux verres d'alcool par jour, c'est quand même pas la mort ». Qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh bien non, parce qu'il va falloir commencer à comprendre que l'alcool, finalement, on a des risques augmentés de voir apparaître certaines pathologies de manière linéaire, voire exponentielle, à partir de, justement, 1, 2, 3 verres d'alcool par jour. Très clairement, par exemple, sur le risque cardiovasculaire, on augmente un risque d'augmenter sa tension artérielle à partir de 2 verres par jour. Les risques de cancer, également, c'est à des très faibles consommations.
Au fond, s'habituer à regarder l'alcool comme on regarde un petit peu le tabac, cela signifie il faut adopter le même type de politique publique à l'égard de l'alcool qu'à l'égard du tabac, de votre point de vue ?
C'est vrai que l'alcool, c'est une drogue. L'alcool, c'est la première cause d'hospitalisation en France. Il y a énormément de maladies qui sont liées à une consommation excessive, sans forcément être alcoolodépendant. C'est un petit peu ça le point essentiel aujourd'hui, c'est que même des problèmes de santé peuvent apparaître avec des consommations pour lesquelles on n'est pas dépendant au produit. Et donc oui, effectivement, il faut penser maintenant à des politiques publiques, à l'instar du tabac, qui visent à réduire les risques liées aux faibles consommations d'alcool, avec notamment, ce qui est d'actualité, le prix des produits et les taxes. On ne doit pas avoir un produit très peu cher et très disponible. La publicité sur le produit également, c'est quelque chose qui doit être combattu parce que c'est un facteur essentiel qui pousse notamment la consommation d'alcool chez les jeunes, par exemple, et puis mieux informer également le grand public sur les risques. Donc il y a plein d'angles ici par lesquels il faut attaquer cette consommation importante d'alcool.
Jusqu'à, par exemple, au fil des années, sur les paquets de cigarettes, fumez-tu ? Est-ce qu'on peut imaginer le même type de marketing, entre guillemets ?
Alors, on peut penser à des messages de prévention clairs, sans forcément avoir des étiquettes, des grosses étiquettes. Mais par exemple, les deux choses, moi, qui me semblent primordiales, c'est le logo sur alcool et grossesse, par exemple. Oui. Il faut augmenter la taille. Les alcooliers se sont engagés, mais il faut le faire. Et puis, on peut imaginer également des messages, des phrases qui indiquent les risques des faibles consommations d'alcool. Oui, ça c'est envisageable.
Mickaël Nassila, il y a une tolérance particulière en France à l'égard de l'alcool, tolérance des Français en général et des pouvoirs publics ?
Oui, bien évidemment, il y a de la tolérance, on est très tolérant vis-à-vis du produit, on sous-estime les risques, on voit surtout les effets liés au plaisir, les effets positifs, mais on sous-estime beaucoup et on néglige beaucoup tous les effets pour sa santé, mais aussi les aspects sociaux et sociétaux. L'alcool est souvent responsable de violence. C'est un des autres articles du bulletin épidémiologique hebdomadaire où on met en évidence les dommages sociaux créés par le produit. Donc ça demande de l'éducation, de la meilleure information et c'est le but de cette campagne de prévention qui va commencer sur la consommation d'alcool en France.
Ma question sur la tolérance, c'était aussi celle des pouvoirs publics. Ça représente beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent, le secteur de l'alcool en France. Est-ce que il est plus difficile pour les pouvoirs publics de défendre un discours de santé publique sur ce terrain-là que sur un terrain comme le tabac ?
Oui, bien évidemment, il y a une raison économique, c'est ce qu'on met toujours en avant, c'est qu'il ne faut pas que l'économie prime sur les problèmes de santé publique. Donc bien évidemment, ces derniers mois, ces dernières années, on voit une mise à jour d'un lobby très efficace, très important, qui s'oppose à, qui est très résistant au message de santé publique et qui nous ramène sans cesse vers la problématique du vin, de la culture, du boire à la française et du poids économique. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut ouvrir les yeux et on ne peut plus ici mettre en avant des choses qui ne repose plus sur rien, le French paradoxe, les effets bénéfiques de faible consommation d'alcool et notamment de vin. Je crois que c'est un petit peu un faux débat. Il faut reprendre les données scientifiques et puis informer le grand public sur les risques de la consommation d'alcool.
Merci Mickaël Nassila. On rappelle ces trois repères qui ont été fixés il y a quelques temps. Plus de 2 verres d'alcool, pas plus de 2 verres d'alcool en une journée, pas plus de 10 verres d'alcool dans la semaine et pas plus de 5 jours sur 7 pendant lesquels on consomme de l'alcool. Et nous ouvrons à présent une longue page européenne dans ce journal. Question à 2 mois exactement des élections européennes. À quoi servent les députés de Strasbourg ? Eh bien voilà une réponse. À Strasbourg ce matin a été votée une directive qui pèse des milliards d'euros et qui pèse lourd aussi dans le débat sur la société numérique. Et les échanges ces derniers mois ont été parmi les plus acharnés qu'ait connu le Parlement. On parle de la directive sur le droit d'auteur, Johanna Hochstein.
Il s'agit de rééquilibrer les rapports de force entre les géants de l'Internet et les créateurs de contenu, des auteurs, des chanteurs, des journalistes, qui doivent toucher une juste part des revenus générés par la publicité autour de leurs œuvres sur la toile, insistent les députés qui portent cette réforme. Patrick Le Yarrick, député du Front de Gauche et directeur du quotidien L'Humanité, dénonce la campagne de lobbying des GAFA.
On comprend les pressions et les appétits des géants du numérique quand on sait que la création dans l'Union européenne représente 536 milliards d'euros par an.
Au cœur des débats ce matin, encore et toujours, l'article 13 devenu article 17 dans la dernière mouture du texte. Un article qui rend responsable Facebook et Google du contenu hébergé sur leur page. C'est la porte ouverte à la censure, s'indignent les opposants au texte. Les géants de l'Internet pourront filtrer du contenu si son auteur n'a pas été rémunéré, explique Julia Reda, eurodéputée allemande, membre du parti pirate. Vous ne pouvez pas ignorer les 5 millions d'internautes qui ont appelé à voter contre le texte, insiste-t-elle. Ce serait une gifle pour la démocratie et cette attitude alimenterait encore davantage les discours eurosceptiques, conclut-elle. Johanna Hochstein, France Inter, à Strasbourg.
Dans deux mois, donc exactement, les élections européennes, quels seront les candidats? Eh bien, au fil des semaines, en France, ça se précise, ce sont les Macroniens cette semaine, La République En Marche, qui dévoile les 30 premiers noms de leur liste, cet après-midi précisément. Alors, vous nous donniez les premiers noms dès la semaine dernière, Karine Bécart. Restons prudents, il y aura forcément des négociations jusqu'au dernier moment, jusqu'à la présentation de la liste cet après-midi.
16h30.
Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, Karine, c'est que l'attelage sera assez baroque.
Oui, et d'ailleurs, les surprises de la liste, c'est-à-dire les noms politiques, ne savent pas très bien pourquoi ils ont été choisis. Le syndicaliste agricole Jérémy Deserle, qui a visiblement toutes les chances de se retrouver le quatrième de la liste, explique en coulisses qu'il a été très honoré d'être sollicité par le président de la République, mais il ajoute déjà qu'il est là pour défendre l'agriculture française et qu'il restera dans l'état d'esprit des jeunes agriculteurs, donc son syndicat. Ce qui risque d'être un peu compliqué avec le numéro 2, l'écologiste Pascal Canfin, qui n'a pas toujours été un fervent macroniste et qui a surtout accepté de rallier cette liste pour créer la banque pour le climat qu'a promis dans sa dernière tribune le chef de l'État. Donc, on n'est pas tout à fait raccord là.
C'est ça, ces gens-là arriveront à s'entendre?
Alors ils vont d'abord apprendre à se connaître, comme toujours, entre ceux qui viennent de la société civile et ceux qui sont là pour remerciements politiques. C'est le cas du jupéiste et proche du Premier ministre Gilles Boyer, par exemple. C'est le cas aussi de Stéphane Séjourné, ancien conseiller à l'Élysée, ou de Pierre Carlesquin, un proche de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Donc incontestablement, il y a du renouvellement, mais tout de même, les vieilles pratiques ne sont jamais très loin.
Un constat d'ores et déjà, Karine Bécart, parmi les gagnants dans les premiers noms de cette liste, il y a le MoDem de François Bayrou.
Effectivement, il décroche 5 candidats parmi les 20 premiers les plus éligibles. Un quart des effectifs, c'est évidemment conséquent. Les surprises, Marie-Pierre Védrenne, la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes, et la navigatrice Catherine Chabot, c'est lui, entre guillemets, qui les amène. Mais cela n'a pas manqué d'agacer une bonne partie de la majorité.
Merci Karine Bécart. Et l'Europe est-elle un gage de puissance et de prospérité pour les habitants de ces 28 pays, ou bien un vieux continent, faible, face aux autres géants de la mondialisation? C'était la toile de fond d'un sommet assez unique qui se tenait ce matin à l'Élysée. Autour de la table, le président chinois Xi Jinping en tournée en Europe, qui multiplie les investissements dans les ports italiens, la 5G à Monaco, achat d'Airbus aussi, 35 milliards de dollars de contrats pour l'avionneur. Xi Jinping donc, et à ses côtés, trois Européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Que retient-on Bertrand de cette rencontre assez unique ?
Eh bien, l'Union européenne s'alarme du risque de dépendance induit par les investissements chinois massifs. Et ce matin, sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker étaient en effet côte à côte pour accueillir Xi Jinping. Pour le président français, il faut changer de paradigme dans ce contexte tendu.
Notre volonté commune est d'éviter que la réponse à ces tensions ne soit dans la fracturation de l'ordre international commercial, dans une nouvelle conflictualité commerciale ou dans des politiques d'isolation ou de repli.
D'où un front commun européen qui se présente comme un partenariat pour éviter de froisser le puissant dirigeant chinois, même si la Commission européenne considère Pékin comme un rival systémique. Jean-Claude Juncker souhaite davantage de réciprocité.
Il faudra que les entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture pour ce qui est de l'accès au marché chinois que les entreprises chinoises trouvent en Europe.
Cette rencontre ce matin à l'Élysée, à l'initiative d'Emmanuel Macron, intervient deux semaines avant le sommet Union européenne-Chine, le 9 avril à Bruxelles. La chancelière allemande y attache une grande importance. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, estime Angela Merkel, qui s'interroge sur la préservation du multilatéralisme dans les échanges commerciaux. Le président chinois Xi Jinping, lui, se contente de répondre par des formules très générales sur la coopération et le respect des institutions internationales, mais sans prendre aucun engagement.
Merci Bertrand Galichet, en direct de l'Élysée avec Romain Lucquiens. L'Europe, c'est encore les aveux hier de l'ancien militant d'extrême gauche Cesare Battisti, lui qui avait été extradé du Brésil en Italie au début de l'année. Il reconnaît pour la première fois avoir commis 4 meurtres dans les années 70 à l'époque des années de plomb en Italie. Vous le savez, pendant de longues années, Battisti a été soutenu en France par une pléiade d'intellectuels. Que disent-ils aujourd'hui? Yann Gallic, vous avez mené l'enquête.
Entre 1990 et 2004, Cesare Battisti avait trouvé refuge en France comme des centaines d'activistes italiens, protégés par la jurisprudence Mitterrand. Le président socialiste avait promis de ne pas extrader ceux qui avaient renoncé à la lutte armée, mais au début des années 2000, le gouvernement français fait marche arrière. Des élus, des écrivains et des intellectuels de gauche se mobilisent alors contre l'extradition de Battisti, comme la romancière Fred Vargas, qui l'a toujours défendu, extrait d'un entretien diffusé en 2006 sur France 2.
J'aimerais bien qu'il ait un procès, et je m'en ferai pas puisqu'il a pas tué ses gars. Tant qu'il n'a pas l'assurance, comme n'importe qui, de pouvoir dire « ces 4 meurtres, on me les fout sur le dos, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'étais », enfin bon, il n'y a pas une preuve dans l'affaire Battisti, il n'y a que des paroles.
Malgré les aveux de Battisti, Michel Tubiana, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, ne renie pas son engagement en faveur des anciens militants italiens réfugiés en France.
On savait que pesaient sur un certain nombre d'entre eux des accusations de crimes. En même temps, il faut savoir terminer une guerre. Je pense qu'une partie des autorités italiennes ne souhaite pas en sortir. C'est toujours plus commode de désigner un ennemi de l'intérieur plutôt que de s'interroger sur ce qui s'est produit, les responsabilités des uns et des autres.
Selon Michel Tubiana, la France ne doit pas remettre en cause sa politique d'accueil envers les exilés italiens, dont certains sont aujourd'hui menacés d'extradition.
Donald Trump, le tweet du matin, alors que le procureur Mueller n'a aucune preuve de collusion de l'équipe Trump avec la Russie lors de la présidentielle. Pendant 2 ans, écrit Trump dans un tweet, les grands médias ont poussé ce délire de la collusion russe. Ils savaient qu'il n'y avait pas de collusion. Ils sont vraiment l'ennemi du peuple et le véritable parti d'opposition. En France, le procès d'Abdelkader Merah se poursuit à la cour d'assises spéciale de Paris. A-t-il inspiré, encouragé les attaques terroristes de son frère Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012? 7 personnes tuées, 3 militaires, 3 écoliers juifs. Le père d'un des écoliers, ensuite Mohamed Merah, avait été abattu par les forces de l'ordre. Alors c'est le procès en appel d'Abdelkader Merah. Il y a 1 an et demi, il avait été condamné à 20 ans de prison. Corinne Audouin, vous suivez les audiences pour France Inter ce matin, le parcours de l'accusé et son rapport à la religion.
Oui, dans les quartiers, il n'y a que 2 voies, la délinquance ou la religion, dit Abdelkader Merah, qui a emprunté les 2 successivement. La cour d'assises se penche d'abord sur une enfance marquée par le divorce de ses parents, l'absence totale de cadre éducatif, un frère aîné qui l'initie au hashish à 10 ans et demi, à l'alcool à 11, les bagarres, l'échec scolaire, les foyers. Pour nous, la violence, c'était quelque chose de normal, dit-il. Les rapports éducatifs décrivent un garçon intelligent, mais en rébellion permanente. Son casier compte 5 condamnations, notamment pour violence. 2006, c'est une année charnière. Abdelkader Merah se marie religieusement. C'est aussi l'année de sa conversion à l'islam. Après avoir étudié comparativement le christianisme et le judaïsme, j'arrivais grâce à cette religion à me cadrer moi-même, dit-il. Entrer dans l'islam, c'est croire et appliquer. Être musulman et boire de l'alcool et voler, ça se passe pas comme ça. Il faut respecter les règles. La voix est posée, la parole fluide. Les 3 voyages en Égypte, c'était pour apprendre l'arabe littéraire, dit-il. Y a-t-il croisé les frère Klein, future figure du terrorisme djihadiste, à un match de foot, répond Abdelkader Merah, qui a présenté ce matin une version très lisse de sa jeunesse et de ses convictions.
Corinne Audouin en direct du Palais de Justice de Paris pour France Inter. Et nous en venons à la chronique santé comme chaque mardi. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Une avancée ce matin dans le domaine de l'autisme. Avancée importante, mais ce n'est pas, on ne parle pas médical ou scientifique précisément.
Et pourtant, oui, ça peut vraiment changer le quotidien des personnes atteintes, de leurs proches et des professionnels. Ce matin, en effet, a été présentée la plateforme Autisme Info Service, le premier dispositif national et gratuit d'information et d'écoute dans tous les domaines, prise en charge, soins, école, vie de tous les jours.
Un sondage a été réalisé à cette occasion qui montre la difficulté de trouver des informations et des solutions.
Et les réponses des personnes concernées sont édifiantes. La moitié n'ont pas reçu de prescription d'accompagnement après le diagnostic. 34% ont mis plus de 6 mois pour trouver des informations sur les démarches administratives. Ce qui frappe aussi, c'est le fossé entre les familles et les professionnels, puisque 64% des proches sont insatisfaits des recommandations émises par les professionnels de santé et 72% jugent inadapté les conseils en matière d'enseignement.
Alors, est-ce que ça va changer? Que présente précisément cette plateforme? Vous avez interviewé Florent Chapelle, il en est le co-président. Il est aussi engagé personnellement dans cette lutte au quotidien.
Dans un cas sur deux, la personne sort de l'hôpital, du centre, et sort avec juste un diagnostic. Alors c'est déjà bien d'avoir un diagnostic, mais quand on a un diagnostic sans solution, c'est terrible. Et on tape à la porte d'une assoce, puis d'une seconde, puis on appelle, on ne le rappelle pas. Bon, ça n'arrivera plus. Aujourd'hui, on sort, si le professionnel n'a pas fait son boulot, nous, on prend le relais. Alors quand il a bien orienté et qu'il dit aller vers une structure, il faut des méthodes éducatives et comportementales, on dira vers qui aller, quel type de méthode est adapté pour l'enfant. Et puis si la personne sort sans aucune orientation, eh bien là, on pourra l'orienter. Alors on va pas dire dans telle école, il y a une place, mais on va dire dans telle école, il y a un dispositif adapté. Vous pouvez y aller, vous pouvez saisir le rectorat. On fait gagner un temps fou. On peut faire gagner jusqu'à un an et demi aux familles. Mais le parcours de vie, c'est pas seulement l'école. Hein. Le parcours de vie, c'est tout au long de la vie. Le parcours professionnel, le logement, autant de questions qui se posent tout au long de la vie.
Et c'est un service personnalisé qu'on y trouvera. Hein,
oui, en s'appuyant aussi sur le secrétariat aux personnes handicapées et l'annuaire des ressources nationales. Autisme Info Service sera ouverte officiellement mardi prochain. C'est la journée mondiale de l'autisme avec un site web autismeinfoservice.fr et un numéro gratuit qu'on vous redonnera 0800 71 40 40.
0800 71 40 40. Un Schumacher dans une Ferrari, elle sera grande l'émotion. Mardi prochain, Mick Schumacher, le fils déjà champion d'Europe de Formule 3, pilotera la Formule 1 toute rouge pour des essais sur le circuit de Bahreïn. Michael Schumacher, le père, septuple champion du monde, n'apparaît plus en public depuis un très grave accident de ski. Il y a quelques jours, ils ont sonné, au milieu de la nuit, chez lui, à Amsterdam. Deux hommes, un Picasso sous le bras. Le tableau avait été volé sur un yacht à Antibes en 1999. L'homme néerlandais à qui il a été remis cette nuit-là, après 20 ans de recherche, est l'un des plus fins limiers du monde de l'art. C'est l'histoire du jour, elle nous est racontée par Angélique Bouin.
Après 20 ans, les collectionneurs d'art n'imaginaient pas un jour revoir ce tableau que Picasso aimait tout particulièrement. Il n'avait été vendu qu'après sa mort. Et c'est donc Arthur Brandt, surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art, qui a pu le récupérer en enquêtant pendant 4 ans dans le milieu mafieux aux Pays-Bas. La rumeur disait que le tableau passait de main en main, souvent utilisé comme garantie dans des affaires de drogue ou de vente d'armes. C'était vrai, dit-il. Dans la presse néerlandaise, Brandt raconte avoir rencontré un jour un agent immobilier qui lui confie l'avoir possédé, puis échangé. L'expert suit le fil, fait savoir que le vol est prescrit, c'est ce qui aurait provoqué sa restitution. Une nuit, deux hommes frappent à sa porte. Le tableau est là, enveloppé dans un drap et des sacs poubelles noirs. Une œuvre estimée, selon l'expert, à 25 millions d'euros. Son propriétaire, un homme d'affaires affligé, raconte encore Brandt, aurait découvert tardivement qu'il était volé. Ce buste de femme de Dora Maar, maîtresse du peintre, a été rendu le lendemain à la compagnie d'assurance qui avait indemnisé son propriétaire. Mais l'huile sur toile a d'abord passé le reste de la nuit sur le mur de l'enquêteur. Un moment magique, conclut-il. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et c'est sur l'image de ce Picasso accroché de nuit dans un appartement que nous terminons ce journal.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Sébastien Léas.
Le temps est généralement calme et le plus souvent bien ensoleillé. Cet après-midi, des plages de l'Atlantique au pourtour méditerranéen, aux Alpes et à la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au centre-Val de Loire, à la Normandie et au Boulonnais. Les nuages se montrent plus nombreux, de l'Île-de-France à l'Alsace et à la région lilloise, en particulier au nord de la Seine, mais le temps reste sec. En revanche, en Corse, l'après-midi est plus perturbé et des averses circulent. Les averses sont rares sur les côtes ouest, mais nombreuses plus à l'est, avec même un peu de neige au-dessus de 900 mètres d'altitude. Les régions du quart sud-est sont bien ventées cet après-midi, notamment notamment la vallée du Rhône et le sud des Alpes. C'est en Corse que les rafales sont le plus violentes, avec des pointes dépassant 100 km/h. Côté température, les maximales de cet après-midi sont comprises entre 11 et 14 degrés sur la moitié nord et 13 à 20 degrés plus au sud.